Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Chaque jour, vous le savez, deux destinations en France ou au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
En deuxième heure, tout à l'heure, de 17h à 18h, je vous emmènerai dans l'un des derniers vrais Far West de notre planète. Un pays rude qui monte à des altitudes invraisemblables, à plus de 6000 mètres. Nous serons chez les descendants des Incas, et je vous préviens, on va manquer un peu d'oxygène, mais ce sera dans des paysages incroyables. Et puis, dans ce même pays, je laisse un peu le suspense, je vous dis pas ce que c'est, on descendra aussi dans les profondeurs de l'Amazonie, et on verra comment là-bas, on a adapté du Vivaldi à la mode amazonienne, c'est étonnant, et on fera bien sûr des tas d'autres découvertes. Et puis, en première heure, nous explorerons aussi les plus beaux endroits de France, avec aujourd'hui une région que j'aime beaucoup, c'est le Dauphiné, une sorte de petit paradis vert, avec le Vercors, la Chartreuse, le parc national des Écrins, une région qui va de l'Isère à la Drôme et aux Hautes-Alpes. Pour découvrir cette région, pour voyager, je ne me le déplace qu'avec ma petite bande, la petite famille de joyeux voyageurs. Il y a avec nous Nathalie Elal, bonjour, auteure, grande voyageuse.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous le Dauphiné ?
Ben, le Dauphiné me fait penser à une liqueur, figurez-vous. C'est la Chartreuse. Alors, elle est soit
verte. Commencez par la boisson.
Ah ben moi, tout de suite. Hein. Ouais. Très en forme, tout de suite. Alors, soit elle est verte, soit elle est jaune. Généralement, elle titre à 55 degrés. Elle déchire, je vous le dis tout de suite. C'est une liqueur qui a une histoire incroyable. C'est le secret de fabrication le mieux gardé de toutes les liqueurs. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a environ 40 plantes, c'est tout ce qu'on sait. Sa recette a été offerte au père Chartreux au XVIe siècle.
Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans.
Les pères Chartreux de Voiron gardent cette recette absolument secrète. C'est un mystère de la création, comme on n'en fait plus.
Olivier Pauls, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur gastronomique à Europe 1. Vous vous êtes fait griller sur la Chartreuse. Là.
Oui, mais là, le liquide, moi, je vais vous apporter le solide, puisque nous, on est dans le Dauphiné. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit gratin dauphinois,
par exemple,
un plat incontournable de la gastronomie française. On en percera tout à l'heure tous les secrets, l'histoire, et puis surtout, la recette, la vraie, l'unique. Parce qu'il y a débat, croyez-moi.
Ouais. Alors, avec nous aussi Jean-Bernard Carrier du guide L'Odely Planète. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le Dauphiné ?
Bah, on ne va pas parler du gratin dauphinois. Il va falloir éliminer tout ce gratin dauphinois. Et pour moi, le Dauphiné, c'est des lacets, des côtes qui montent. Il faut avoir des cuisses d'acier quand on fait du vélo. Donc, c'est très sportif pour moi, le Dauphiné. C'est là où il faut vraiment aller brûler des calories.
Ouais. Alors, moi, je vais vous dire ce que ça m'évoque, le Dauphiné, pour moi. Parce que j'ai eu la chance d'habiter un peu pas longtemps, un an à Grenoble. Et c'est une ville qui vous donne le plaisir d'être citadin à la montagne. C'est une vraie ville sympa, avec tout ce qu'il faut d'une ville. Mais en même temps, en 30 minutes, vous êtes à la montagne avec des chaussures de rando, avec des skis au pied à Champs-Rousse. Et la qualité de vie est exceptionnelle là-bas. C'est ce que m'évoque, moi, le Dauphiné. Alors, on se retrouve dans un instant avec un Dauphinois que vous connaissez forcément, mais dont vous n'imaginez pas forcément qu'il ait pu passer une partie de son enfance au milieu des vaches et parfois ramasser des patates dans les vertes vallées du Dauphiné. Vous découvrirez qui c'est dans un instant.
Et si on partait sur Europe 1 ? Deux heures d'évasion avec Philippe Googler. 16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait ? Deux heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, juste pour le plaisir de rêver. Je vous emmènerai tout à l'heure après 17h dans ce pays incroyable, la Bolivie, avec cette ville de La Paz, perchée à 4000 mètres d'altitude, perchée au-dessus d'un canyon incroyable. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes dans une région que je trouve sous-estimée, on en parle trop peu. Et pourtant, c'est un petit joyau français, le Dauphiné. Et nous allons partir précisément dans un hameau qui s'appelle le hameau de la Villardière. Alors, qui, d'après vous, a passé son enfance au château non loin du hameau de la Villardière ? Réfléchissez bien, c'est pas très difficile. Journaliste, baroudeur, à la tête d'un magazine culte depuis 15 ans sur M6, magazine qui s'appelle Enquête Exclusive. Mesdames, messieurs, voici Bernard de la Villardière. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Philippe.
Bonjour à tous.
Merci de nous avoir rejoints pour cette grande balade autour de la France et du monde. Pour s'appeler de la Villardière, du nom du hameau tout
proche. On a bataillé ferme.
Comment ça s'est passé ?
Bon, je ne sais pas. Je pense que, en fait, mon nom patronymique, c'est Berger de la Villardière. Donc, je pense qu'il y avait un berger dans la famille qui a fait fortune.
Ouais.
Ça arrivait à l'époque pour les bergers.
Et comment un berger peut faire fortune ?
Et puis il a acheté une maison qui s'appelait de la Villardière, il a rejeté le titre de la Villardière. Alors on n'a jamais été anobli, mais c'est dans la famille depuis 4-5 siècles.
Ouais. Donc vous n'êtes pas noble ?
Je suis ce qu'on appelle un faux noble. Il y a un dictionnaire des faux nobles et j'en fais partie.
Et ça se vit bien ?
Très bien.
Alors vous êtes né à Paris, mais vous passiez beaucoup de temps au château, où on m'a raconté qu'il y avait votre tante. C'est la tante qui occupait le château, comment ça se passait ?
Oui, une tante qui est restée célibataire et qui était la dame de ces lieux pendant très très longtemps. Ouais. Et nous étions reclus dans les communs parce qu'elle voulait être à ses aises et elle nous aimait bien, mais elle nous trouvait un peu turbulents.
Elle était sympa,
donc
ou pas ?
On regardait le château de loin. Oui, très sympa. Oui, enfin, pas tout à fait de son époque. Elle passait sa vie allongée sur un canapé. Elle faisait 1m75, elle devait peser 36 ou 37 kilos. Donc c'était quelqu'un d'assez impressionnant, mais une très jolie silhouette. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, ouais. Mais elle vivait en dehors du temps. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit un jour que j'allais faire du journalisme... Elle m'a dit « Ah mon chéri, il n'y a pas de ça dans la famille. » Il y avait des banquiers ou des gens qui vivaient de leur fortune à l'époque.
Et vous avez désobéi.
Dans les années 70. J'ai quand même choisi cette voie-là, mais elle est restée très, très aimante et très proche de nous.
Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées
elle
là-bas
circulait
quand
dans
vous
avez... une vieille panhard noire, ouais. Qui nous impressionnait toujours.
La classe.
Ouais, très classe.
Mais elle, c'est marrant, c'est qu'elle occupait tout le château à elle toute seule.
Ouais, ouais. Avec ce qu'on appelait à l'époque ses domestiques. Une cuisinière et un chauffeur. Et
qu'est-ce que vous faisiez de vos vacances là-bas ? Vous étiez occupé à quoi ?
On passait notre vie à la ferme, maintenant au château, chez Ginet. Et on était très attirés par la ferme, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, encore au début des années 70, il y avait des chevaux de trait, qui tiraient des charrettes, des tombereaux chargés de pommes de terre. Et on adorait être sur la ridelle du tombeau et de guider les bêtes, guider les chevaux sur les sentiers au retour des champs.
C'est marrant, je vous imaginais pas du tout en train de...
Ouais.
Je vous imaginais pas au champ, je sais pas pourquoi.
Et c'était une famille, et je me souviens qu'il y avait Émile Ginet, qui était une figure du village avec une très jolie moustache à la gauloise, qui nous racontait sa guerre de 14-18. Ouais. Et au retour de la guerre de 14-18, il a eu le droit d'aller au théâtre à Paris. Et c'est la seule fois où il a séjourné à Paris. Et donc, il nous racontait quand il a été au paradis, au théâtre à Paris. Et c'était un homme, quand il est mort, il y a déjà une trentaine d'années, j'ai vraiment une grande tristesse parce qu'il a représenté beaucoup pour moi.
Alors, on a vu dans votre parcours, dans votre émission, que vous alliez sur des terrains un peu chauds. J'ai vu dans votre livre « L'homme qui marche ». Que le moment où vous avez testé à éprouver votre courage, c'était avec des fantômes et un corbillard à l'âge de 13 ans dans cette propriété.
Absolument, dans une grange attenante, il y avait un corbillard qui était tiré par des chevaux, par les chevaux de la ferme justement. Et chaque fois qu'il y avait évidemment un décès, on sortait le corbillard qui était conduit par Henri d'ailleurs, qui était un fermier. Et qui vit toujours d'ailleurs, qui est toujours là. Et donc je jouais à m'enfermer dans la grange avec le corbillard qui m'impressionnait beaucoup. J'étais très impressionné par la mort à l'époque, d'autant que le cimetière n'était pas loin. Et très impressionné aussi par le spectacle de ce corbillard qui se dirigeait vers l'église avec son cercueil à l'arrière. Très beau corbillard qui a disparu. Je ne sais pas où il est passé, mais j'aurais aimé le garder.
Mais vous vous entraîniez à quoi exactement ?
À ne pas avoir peur de la mort.
Parce que
j'avais très peur de la mort.
Il bougeait tout seul, le corbillard, ou pas ?
Non, il était là, à l'abandon.
Il n'y avait pas de fantôme autour.
Entre deux enterrements, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de fantôme.
Est-ce que cette région vous a apporté quelque chose qui fait que vous êtes l'homme que vous êtes aujourd'hui ?
Oui, forcément.
Quoi, par exemple ?
Le goût de l'effort, sans doute, parce que les gens de l'Isère sont des gens qui, comme les Vendéens, ont le goût de l'effort. D'ailleurs, on construit volontiers des usines là-bas. Je crois qu'il y a des usines Hermès dans cette région, dans ce département, parce que ce sont des gens sérieux. Les Isérois, c'est des gens parfois sévères, mais sérieux et travailleurs. À mon époque, dans les années 60-70 encore, il y avait 35 fermiers dans le village. Il n'y en a plus que 2 ou 3. Il y avait 2 usines. Et d'ailleurs, j'ai connu cette époque où les gens faisaient les 3-8, et donc ils travaillaient le matin à l'usine, et l'après-midi, ils étaient dans les champs. Et donc, on avait plein d'amis dans le village, donc on rencontrait les gens, des adultes évidemment, avec lesquels on passait nos après-midi, et qui étaient une gentillesse absolue avec nous. Et il y a un grand jeu, c'était de brûler les chaumes aussi, parce qu'à l'époque, on brûlait les chaumes. On considérait que c'était enrichir le sol. Aujourd'hui, on sait que c'est appauvrir les sols que de brûler les chaumes, ça ne se fait plus. Ouais. Mais à l'époque, c'était un rite qui était très important. Et puis, il y avait aussi le ramassage des pommes de terre. C'était une des rares tâches sur lesquelles on se sentait un peu utile avec mon frère Jean. Et je me souviens d'Henri qui m'a dit un jour, oui, tu ramasses les pommes de terre avec nous, j'avais 12 ans, 13 ans, mais quand tu auras 20 ans, tu ne viendras plus ramasser les pommes de terre avec nous. Et quand j'ai eu 17, 18 ou 19 ans, je me suis attaché à continuer d'aller ramasser les pommes de terre de temps en temps.
Et vous y allez encore ou pas ?
Bien sûr. Ramasser les pommes de terre, non, il n'y a plus de pommes de terre dans la région, pratiquement plus. En tout cas, voilà, il y a un nouveau fermier qui est un éleveur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont essentiellement des pâtures. Avant, il y avait du maïs, il y avait du tournesol, des patates, du blé, bien évidemment, de l'avoine. Mais cet aspect-là, hélas, disparu.
Alors, Bernard de la Villardière, on se retrouve dans un instant pour aller découvrir votre Dauphiné à vous, le Dauphiné de la nature, des montagnes, et entre autres de celle qu'on appelle là-bas le Mont Inaccessible. Vous nous direz si vous l'avez vaincu. À tout de suite.
Et si on partait ? Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1. 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous voyageons comme chaque jour sur Europe 1 entre 16h et 18h jusqu'à 17h. Nous sommes dans le Dauphiné, une des plus jolies régions de France, avec Bernard de la Villardière, un enfant du pays. Bernard, cette région, elle n'est pas si connue, même si tout le monde a entendu parler de Grenoble, qui est au cœur de cette région. Mais autour, c'est un peu vague, un peu mystérieux. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette région, vous ?
La montagne, les paysages. J'ai la chance des endroits à la Frette où on a une vue à la fois sur le Vercors à droite, la Chartreuse à gauche, le massif de Belledonne en face, quand le ciel est assez clair. Voilà, on aperçoit parfois le Mont Blanc, dit-on. Moi, j'y suis pas jamais parvenu, mais les gens du pays nous assurent qu'on voit le Mont Blanc de temps en temps.
Ça, on le dit de beaucoup d'endroits.
Hein. Ouais.
Alors, il y a une des montagnes dans cette région qui s'appelle le Mont Aiguille, qui est un peu la star du Dauphiné. Elle fait 2087 mètres. Elle a une forme très particulière. Certains disent qu'elle a une silhouette de pyramide renversée. Mmh. Et c'est un mont très difficile à gravir.
Oui, il y a des voies difficiles. Il y a des voies plus faciles, mais il y a des voies assez difficiles. Ouais.
Au XIIe siècle, on l'appelait la montagne inaccessible. Mmh. Vous l'avez essayé ?
C'est dans le Vercors qu'est né l'alpinisme, d'ailleurs. Ouais. Il y a eu des alpinistes fameux comme Lionel Terray, qui a trouvé la mort, d'ailleurs, là-bas. De Mont-Aiguille, oui, j'ai essayé plusieurs fois, une fois que j'ai abandonné, parce que j'étais sur une vire. Et,
sur une quoi
et, enfin, sur une petite terrasse rocheuse, voilà, les épaules dans le vide, puisque effectivement, comme vous dites, c'est une pyramide renversée. Et j'ai eu très peur, parce que je croyais que j'étais assuré. Et en fait, j'étais assuré, mais mon frère qui était à côté de moi ne l'était pas. Et il s'est écarté de la falaise comme ça, en reculant, et il m'a dit, t'es assuré ? Je lui ai dit, bah oui. Et puis il se recule, et puis je m'aperçois qu'il ne l'était pas. Quoi. Il n'avait pas ça, il n'avait pas sa corde dans le mousqueton. Voilà, et on est redescendu. Souvent, c'est quelque chose qui me persécute, parce que il n'était pas très chaud pour partir. Et c'est moi qui l'ai emmené, et donc s'il était mort, j'aurais été responsable à vie. Et je repense souvent à ça, parce que c'est une de mes grandes frayeurs, rétrospective.
Ah oui ?
On est descendu en rappel, on a demandé au guide qui était avec nous de nous redescendre.
Vous parlez, c'est marrant, c'est étonnant, vous parlez souvent de la mort et des inquiétudes, etc. C'est quelque chose
j'aime bien vivre avec ça, oui.
Vous aimez ça ?
Mon adrénaline. Bah, j'aime bien prendre des risques, donc évidemment, je réfléchis souvent à ça. Il m'est arrivé d'avoir très peur, oui. Mais en fait, c'est comme c'est un peu comme une drogue. Mais en même temps, la vie, c'est aussi la mort, et la mort, c'est la vie. Enfin, oui, ça me fascine. Toutes ces questions me fascinent. Comme les questions religieuses, c'est pour ça que j'aime aussi dans ce pays les monastères qui y sont. Le monastère de Tamier, qui n'est pas loin, au-dessus de Chambéry. Le monastère de la Grande Chartreuse. La vie mystique m'intéresse. Je suis catholique de culture, je ne suis pas pratiquant. Mais la vie mystique m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'ai le projet de faire un grand documentaire sur la prière. Lors de mes vieux jours, quand j'arrêterai de faire le tour du monde et de jouer les producteurs, je me consacrerai à deux ou trois choses essentielles, dont celle-ci. Parce que j'aime bien les chercheurs de Dieu. Ce sont des aventuriers, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on cherche Dieu, on frôle aussi la folie. Et je pense que derrière ces monastères, il y a des gens mystiques, il y a des gens très croyants, il y a des gens très équilibrés, mais il y a aussi des gens qui qui flirte avec la dépression et la folie. D'ailleurs, concernant la Grande Chartreuse, que je recommande, parce que c'est un endroit très beau, hein, en Chartreuse, très très bel endroit, un site merveilleux, avec, c'est impressionnant cette Grande Chartreuse. Ça a été créé au XIe siècle, je crois, la règle de Saint-Bruno. Il n'y avait pas de règle d'ailleurs au début, mais alors c'était à la fois la vie en collectivité et l'isolement dans tes petites cellules en bois, où chaque moine allait se faire chauffer, chercher, couper son bois, se chauffer, etc. Et puis se retrouver deux ou trois fois pour les matines, les complis, etc. Les matines le matin, les complis le soir. Et non, c'est une vie qui m'a toujours intéressé. Quand j'étais enfant, j'adorais que mes parents m'emmènent à la Grande Chartreuse.
Olivier.
On peut bien croire qu'ils avaient besoin de boire un petit coup de chartreuse de temps en temps pour accélérer le rythme de la journée quand même.
Oui, oui, la chartreuse, moi j'adore la chartreuse, j'adore. C'est un peu sucré, mais c'est très costaud. Et j'avoue que j'en ai parfois une fiole au fond de mon sac quand je pars en reportage.
Vous avez des élixirs. Ouais.
Pour passer un moment difficile.
Oui, le soir, de temps en temps, pas mal.
Et plutôt la verte ou la jaune
Plutôt la verte, deux, hein. Moi c'est plutôt la verte.
Qui est un peu plus forte d'ailleurs.
Ouais, la verte est plus costaud. Et alors, c'est vrai que c'est un secret bien gardé. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a deux moines de la Grande Chartreuse qui sont chargés de la fabrication de cet élixir, de cette liqueur. Et en fait, ils ne circulent jamais dans la même voiture. Parce que s'ils meurent tous les deux, ben le secret se perd.
Ouais. Alors, il y a un personnage fort de cette région que vous aimez beaucoup. Vous allez me dire pourquoi. C'est Louis Mandrin, un contrebandier.
Oui, tout à fait. Il s'est révolté contre les percepteurs de l'époque, les fermiers généraux. C'était au 17e, je crois. Et il est originaire de Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, tout près de la Frette. Et il a fait affaire avec des fermiers généraux, puis il avait acheté des ânes en Italie, et puis il a passé les Alpes, puis il a perdu l'essentiel de ses ânes, et il n'a jamais été payé du coup de ce qu'on lui avait commandé, et il a frôlé la misère. Et donc, par esprit de revanche, il s'est retourné contre les fermiers généraux, il a levé une armée de jusqu'à 500 hommes.
Et, c'est une sorte de Robin des Bois
Il était né à Grenoble, c'est un Robin des Bois, absolument.
Ouais.
C'est un Robin des Bois. Enfin bon, il a été aussi accusé de meurtre au tout début. Enfin bon, c'était un brigand, mais c'était un brigand sympathique.
Ouais.
Il y a eu quelques films. Il y a eu Villon, je crois, qui a écrit une chanson sur...
Mais il a mal fini aussi. Hein. C'est pas terrible d'être un Robin des Bois à cette époque-là.
Il a fini roué en place publique à Valence, je crois.
Ah, c'est sympa.
Ouais.
Ouais. On découvre un Bernard de la Lumière étonnant
côté,
dans cette émission.
Le côté breteur, le Compteur. Côté révolté, le côté... voilà.
Je crois que le fil rouge, c'est l'adrénaline, Bernard. Hein, même chez Mandrin, effectivement.
Ouais.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Bernard de la Villardière. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches soirs sur M6 à 23h10 pour Enquête exclusive. Merci d'être passé nous voir, nous avoir raconté le Dauphiné à votre façon. Votre région de famille. On se retrouve dans un instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Hellal, qui se niche dans l'histoire du Dauphiné. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Après le flash de 17h tout à l'heure, je vous emmènerai en Bolivie, un pays incroyable avec l'un des plus grands déserts de sel du monde. Une immense étendue blanche, d'un blanc qui éblouit les yeux. C'est un endroit fantastique, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, nous sommes dans le Dauphiné avec Nathalie Hellal, bien sûr. Vous savez que c'est elle qui a les clés, qui sait ouvrir les portes et qui connaît tous les secrets de nos régions. Si, si, Nathalie.
C'est trop.
En fait.
Comment oui.
C'est passe-partout.
C'est passe-partout.
Oui, c'est ça. Arsène Lupin.
En plus charmant, en plus délicat. D'abord, le Dauphiné, moi je trouve que c'est un peu bizarre comme nom. Alors quand on dit Dauphiné, on pense au gratin dauphinois, mais la deuxième question c'est souvent pourquoi dauphin? Il y a une histoire de roi, de dauphin là derrière, qu'est-ce qui se passe?
Paradoxalement, s'il n'y avait pas eu une histoire de dette de jeu, il n'y aurait pas eu de Dauphiné en France. En fait, il y avait un seigneur dans cette province qui s'appelait Humbert, était criblé de dettes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la région au roi de France, Philippe VI.
Ouais.
Et le transport, c'est-à-dire en fait le changement de main, puisque désormais la province va appartenir au domaine royal, on appelle ça comme ça à l'époque, a lieu en 1349. Et en contrepartie, le roi assure que désormais, chaque fils aîné qui est né dans la famille royale va porter le nom de dauphin jusqu'à ce qu'il hérite de la couronne.
Chaque fils du roi va s'appeler
l'aîné.
Dauphin,
ouais.
L'aîné, parce qu'un jour, quelqu'un a vendu le Dauphiné au roi.
Parce qu'il était perclus de dettes.
Ah, c'est dingue.
Mais oui, c'est dingue.
C'est fou.
Oui, puis il y a aussi une histoire de dauphin, mais ça, c'est un peu plus compliqué avec le cétacé. Le... Oui, bien sûr. Bah, en fait, on suppose, mais c'est un peu compliqué, on suppose qu'une reine, la reine Mathilde, originaire de Sicile, surnommait son fiston le dauphin, petit dauphin, Delphinus. Donc ça viendrait de là aussi.
Ah, dites-moi.
Mais ouais, mais c'est tout un truc, toute une cuisine.
C'est des choses folles, vous saviez ça, Olivier ?
Alors, pas du tout.
Bon.
Moi, je m'en tenais au gratin dauphinois.
Ouais, ouais.
Plus simplement.
On va en parler.
Plus concrètement.
On va en parler dans un instant. Alors, les dauphinois, on a un peu du mal à imaginer qui ils sont vraiment. On imagine que c'est plutôt des montagnards, mais il y a dans l'histoire des traces qui montrent qu'ils ont quand même un sacré caractère.
Oh, bah, tu m'étonnes. Bah oui, parce qu'en fait, on peut dire que d'une certaine façon, le Dauphiné, c'est le berceau de la Révolution française. Puisqu'en effet, il y a eu des émeutes à Grenoble. C'est une ville vraiment connue pour ça. Hein. Ouais. Ça part beaucoup de Grenoble. C'est une poudrière. Beaucoup d'émeutes en juin 1788. On appelle ça la journée des Tuiles contre l'autorité royale. Et donc, c'est parti de là. Il y a eu l'assemblée des trois ordres du Dauphiné qui a réclamé, un mois plus tard, la convocation des États généraux. Et c'est pas du tout un hasard d'ailleurs si le château de Vizy dans l'Isère, qui a été le théâtre de cet événement historique, abrite aujourd'hui le musée de la Révolution française.
Ouais. Alors dans le genre châtelain, il y a quand même quelques curiosités assez savoureuses.
Oui, alors j'ai trouvé un excentrique, moi j'aime beaucoup ça, le château de Curieux. Il y avait un marquis, le marquis Duvivier. Alors lui, il élevait des ours dans des cages avec des barreaux de fer et puis se promenait au marché de la Tour du Pin avec un lion tenu en laisse. Je vous laisse imaginer la stupéfaction et l'effroi des habitants et de la région, évidemment. Et puis il avait un peu une autre manie très bizarre, un peu polygame sur les bords, ce brave homme. Il louait une fille à son père avec un contrat devant notaire en bonne et due forme.
Attendez, il louait une fille à son père,
c'est-à-dire... Oui, devant son père, c'est-à-dire qu'il faisait un contrat chez un notaire en disant « Voilà, moi je veux ta fille pour 3, 6 ou 9 mois, je l'emmène dans mon château et elle devient ma femme. » Et puis quand il en avait assez, si c'était avant la fin du bail, entre guillemets, parce qu'on peut appeler ça un bail, eh bien il l'enfermait dans une des tours du château jusqu'à la fin, une sorte de barbe bleue mais qui n'allait pas jusqu'au meurtre.
C'est complètement invraisemblable.
Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie.
Enfin, ça s'appelle aujourd'hui du proxénétisme, en gros. Hein.
Ou de la bigamie, ou de la polygamie, comme on veut. Oui. On est dans la nuance un petit peu sur Europe 1.
Oui, moi, je rejoins Olivier, je ferai plus sur la prostitution, tout simplement.
Oui, si ça vous fait plaisir.
Jean-Bernard, un avis complémentaire.
Ouais, je suis très impressionné par tous ces personnages historiques qui se dégagent de ce Dauphiné. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Vous en avez d'autres comme ça, des savoureux?
Ah oui, j'en ai quelques-unes dans ma besace. Alors, par exemple... Je voudrais vous parler du massif du Vercors et du maquis du Vercors. Alors, vous savez, c'est une citadelle de calcaire, un parc naturel régional le plus grand des Alpes du Nord, avec des gouffres, des grottes, des routes incroyables qui sont ourlées de falaises spectaculaires. Ça, c'est le décor. Mais surtout, ce massif du Vercors, eh bien, il va jouer un rôle essentiel durant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, la résistance.
Mais bien sûr, il devient une importante base de la résistance française qui s'y réfugie parce que c'est une forteresse naturelle, donc il y a des prisonniers de guerre récemment évadés, des militaires français qui sont démobilisés, des antifascistes italiens, des jeunes travailleurs qui fuient le service du travail obligatoire instauré par le maréchal Pétain. Et donc très vite, il prend une importance stratégique, ce maquis, parce que notamment en cas de débarquement, il pourrait stopper toute retraite des troupes allemandes. Alors évidemment, il y a des parachutages d'armes aux maquisards qui sont aidés et ravitaillés par la population sur les plateaux du massif. Et puis, bien sûr, les Allemands comprennent que c'est tellement stratégique qu'il faut absolument qu'il s'y passe quelque chose et qu'ils y mettent fin à tout ça. Et donc, il y a, en janvier 1943, de terribles affrontements entre les maquisards, la milice française et les troupes allemandes. Tout ça finit mal. Pour une autre raison, tout simplement, c'est que les alliés, à cause des rivalités entre Alger et le gouvernement de la France libre de Londres, vont lâcher ces maquisards du Vercors. Donc ça va s'évanouir dans la nature, c'est le cas de le dire. Ça va faire pchit avec beaucoup de destins tragiques. Mais c'est un épisode essentiel de notre histoire.
Oui, c'est un épisode. C'est très important que vous nous l'ayez rappelé parce qu'on sait tous que le maquis du Vercors, c'était important, mais on ne savait pas trop. Enfin, dans la mémoire, on ne sait plus trop pourquoi. Et c'est très bien que vous nous ayez raconté ça. En quelques secondes, parlez-nous des lettres de la marquise de Sévigné, parce que c'est dans le coin aussi.
Oui, alors le Dauphiné, c'est une terre de châteaux, mais il y a aussi un peu plus loin dans la Drôme, le château de Grignan. Alors ça, c'est le château qui est lié finalement à l'explosion d'un talent littéraire. La marquise de Sévigné, séparée de sa fille adorée, Doré va entamer une correspondance qui va durer 25 ans. Sa fille est au château de Grignan. La marquise va y séjourner en réalité seulement 4 ans, mais des très longs séjours. Donc évidemment, on peut dire que ça a été le déclencheur de la vocation littéraire de notre marquise qui nous a laissé des lettres savoureuses, 764 lettres en tout.
Merci beaucoup Nathalie. Dans un instant, nous aborderons le sujet. Finalement, n'est-ce pas le seul ? Le sujet qui nous taraude depuis le début, c'est le gratin.
Oh bah bien sûr.
Pourquoi est-il dauphinois ? Pourquoi un simple gratin de patates mérite-t-elle un tel titre ?
Et a-t-il fait le tour du monde ?
Absolument. La réponse sur Europe 1 dans un instant.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous explorons ensemble sur Europe 1 les profondeurs du Dauphiné. Et autour de moi, le gratin du voyage. Et le gratin du gratin, c'est Olivier Pouls. Pourquoi, Olivier, le gratin est-il dauphinois ?
Écoutez, c'est une vieille histoire. Alors c'est vrai, c'est le plat emblématique de la région. Tout le monde connaît le gratin dauphinois, tout le monde l'aime. Et tout à l'heure, je vous en livrerai les secrets parce que vous savez, il y a beaucoup de débats sur la manière de faire le gratin dauphinois. Donc ça, je vous le garde pour tout à l'heure. Mais tout d'abord, il faut expliquer que les premières traces de ce gratin dauphinois remontent au 15e siècle. Alors vous allez me dire, mais au 15e siècle, la pomme de terre n'est pas encore arrivée en France. Et pourtant, on faisait déjà un gratin dit dauphinois, mais qui était alors élaboré à base non pas de pommes de terre, mais de ce qu'on appelait les raves, le céleri rave, ce qu'on connaît maintenant comme le céleri boule, et qui lui était bien connu. Paraît-il, Louis XI en était friand.
Ah bon ?
Et donc c'était voilà, un plat dans lequel on mettait du céleri qu'on avait coupé, on mettait du lait, on mettait de la crème, on mettait ce qu'on avait. Et écoutez bien cette putain d'anecdote parce qu'on en reparlera. On mettait un peu de fromage aussi, mais on va y revenir.
Donc ensuite, Louis XI aimait le céleri boule
et
au fromage.
En gratin. Et on appelait déjà ça, apparemment, du gratin dauphinois. La vraie première mention d'un gratin dauphinois à la pomme de terre, parce que la pomme de terre, elle arrive par l'Italie au XVIe siècle. Hein. Elle arrive des Incas, elle arrive en Europe, en Espagne, par les conquistadors. Ensuite, elle arrive en Italie et petit à petit, elle colonise, elle vient par l'est du pays. Elle s'installe d'ailleurs très bien dans le Dauphiné parce que c'est un climat qui va bien à la pomme de terre. La pomme de terre aime les climats un peu rudes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas sur la Côte d'Azur. Hein. C'est pas bon pour faire pousser les tomates là-bas. On est mieux avec la pomme de terre. Et donc, dès le XVIe siècle, la pomme de terre arrive et elle remplace la tubercule dans le gratin. Et la première mention officielle de gratin dauphinois à la pomme de terre, et je reviens à la chronique tout à l'heure de Nathalie, elle date de 1788. Et oui, avant, juste avant la Révolution, ça fomentait, et c'est, paraît-il, un repas qui aurait été servi aux officiers municipaux de la ville de Gap. Et il est fait mention d'un gratin dit dauphinois à la pomme de terre.
Ah ouais. Et
voilà, ça c'est
vrai
le vrai
c'est sur la route
début.
De l'Italie.
C'est sur la route de l'Italie. Et ensuite, ce gratin qui plaît visiblement se répand dans les auberges, dans les restaurants et colonise petit à petit, avec l'arrivée de la pomme de terre, évidemment, avec le développement de la culture de la pomme de terre, le reste de la France.
Alors, la question que vous abordiez un petit peu, mais qu'il faut qu'on ose affronter, c'est fromage ou pas dans le gratin ? Parce que je sais que les deux se font.
Bah, ça, c'est le débat. Alors, on est autour de la table. Est-ce qui met du fromage dans le gratin dauphinois ? Je vous pose la question.
Moi, non.
Pourquoi
jamais
non
de la vie. Mais hérétique, vous êtes hérétique, vous.
J'avoue que j'aime bien du fromage. J'aime bien avec l'option fromage.
Ah mais vraiment, oui, ouais. Ça rend tout ça moelleux,
alors,
savoureux.
Alors, c'est vrai que là, on a les deux écoles, c'est
un
intéressant.
Un petit reblochon.
Alors, ça, c'est pas tout à fait académique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a là les deux écoles qui s'affrontent. L'école contemporaine, on va dire aujourd'hui, quand vous demandez à un chef est-ce qu'il y a du fromage en gratin dauphinois, effectivement, il vous dit non, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la pomme de terre, alors une variété plutôt à chair ferme, de la Charlotte ou de la Mona Lisa. Et ce qui va gratiner, c'est pas le fromage. C'est le mélange de l'amidon contenu dans la pomme de terre avec le lait ou la crème. Et là, les crèmes aussi, c'est un débat. Parce que dans les familles où on avait les moyens, on mettait de la crème. Dans les familles où on n'en avait pas, on mettait du lait. Donc c'est une espèce de marqueur social que de savoir s'il y a de la crème ou du lait dans le gratin. Mais en tout cas, la couche gratinée au-dessus, elle ne se fait jamais à base de fromage. Néanmoins, quand on se penche dans l'histoire de ce plat, on trouve des traces, effectivement, de recettes dans lesquelles les familles mettaient aussi des restes de fromage qu'ils avaient. Donc c'est peut-être toléré. Et d'ailleurs, Auguste Escoffier, qui est quand même l'un des grands inventeurs de la codification de la cuisine contemporaine, dans sa Bible, hein, le livre qui fait un peu office de référence, publié en 1903, donne la recette du gratin dauphinois et il indique qu'il met du fromage dedans. Ah bon. Et donc, c'est vrai que ça bouscule un petit peu les puristes, à titre personnel.
Oui, qu'est-ce que vous faites, vous ?
Ben, je le fais pas.
Pourquoi ?
J'en mets pas. Mais parce que je trouve que ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de ce fromage. En fait, on pense aussi qu'on mettait du fromage pour avoir un beau gratiné. À l'époque aussi, on n'avait pas des fours et des fourneaux aussi performants qu'aujourd'hui. Et on n'arrivait pas à gratiner. Et aujourd'hui, avec un bon four à chaleur tournante, vous arrivez à obtenir cette croûte sans avoir besoin du fromage.
Donc, est-ce que le fromage n'est pas un moyen de masquer le ratage de son propre gratin ?
Ben alors, si vous ne vous sentez pas sûr, vous allez rajouter un peu de gruyère ou de je ne sais quoi par-dessus. Ouais. Pourquoi pas ? Non, mais c'est très bon aussi. Ce n'est pas une question de goût. J'adore le gratin avec le goût du fromage. Ça marche extrêmement bien. Il y en a qui mettent même des lardons et des oignons. Enfin bon, là, ce n'est plus du gratin dauphinois. Ça devient de la tartiflette. Mais ça peut être très bon quand même. Non, l'astuce la vraie, pour moi, c'est simplement avec un petit morceau d'ail, on va frotter le plat, on va mettre un petit peu de beurre dans le fond, on va émincer très finement la pomme de terre à la mandoline ou au couteau, je vous la rappelle, des Charlottes ou des Mona Lisa. Très important, on ne lave pas les pommes de terre après les avoir épluchées. On les épluche, on les passe sous l'eau. Et il faut garder l'amidon, évidemment. Oui, ouais. C'est fondamental pour la réussite de la recette.
Vous saviez ça, Nathalie ? Vous faites ça comme ça ?
Oui, je fais ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un plat très lourd, hein, quand même, il faut bien le dire. Hein.
Non, mais vous rigolez, pas du tout. On est en été, là.
Allons-y. Allons-y.
Allons-y. Bon, c'est quelques calories, c'est rien du tout.
Donc, c'est juste des patates, il n'y a pas de fromage.
Hein. Mais non.
J'attends qu'Olivier nous donne les bonnes adresses aussi.
Alors vous savez qu'il y a même un championnat du monde de gratin dauphinois. C'est pas une plaisanterie, ça existe. Je connais pas le champion du monde, mais je vais me mettre en quête de goûter ce gratin, puis je vous donnerai la recette. Mais je finis la mienne. Ouais. Donc les pommes de terre en fines lamelles coupées à la mandoline ou éventuellement au couteau, on les met. Alors ça prend un petit peu de temps. On les organise bien comme il faut. Régulièrement, donc on verse, on sale, on poivre, un petit peu de noix de muscade. On verse un peu. Moi, je fais moitié lait, moitié crème. On monte ça comme ça. Il faut que ça baigne dedans. Et puis surtout après, le secret, c'est une cuisson lente. Dans un four pas trop chaud, 160-170 degrés, ça va cuire pendant une heure et quart.
Une heure et quart.
Oui, oui. Et puis au plus ça cuit...
Ça va pas devenir de la purée.
Non, parce que vous prenez les pommes de terre à chair ferme, c'est ça l'astuce. Et au plus ça cuit, au meilleur c'est. Et si vous le réchauffez le lendemain, c'est encore meilleur.
Merci beaucoup, Olivier Pousse, vous nous donnez l'eau à la bouche. C'est un pays de cocagne, le Dauphiné, pour la gastronomie, pour la nature, pour ses villes, pour ses montagnes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on veut y aller ? Où est-ce qu'on va ? Comment on y va ? Quels sont les bons plans, les bons tuyaux ? Vous saurez tout dans un instant avec Jean-Bernard Carrier et ses bons plans.
Et si on partait ? Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
C'était Benjamin Biolay. Comment est ta peine ?
Europe 1, Philippe Googler.
Alors, le Dauphiné, c'est beaucoup de choses, c'est riche, c'est savoureux, c'est un paradis vert. Mais comment on l'aborde, Jean-Bernard ?
Bah écoutez, on a besoin de beaucoup d'inspiration au cours de cette période estivale pour visiter notre belle France. Alors, j'ai sélectionné quelques pépites, justement, pour cet été, dans ce Dauphiné.
Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez d'abord ?
Bah écoutez, je vais vous faire une confidence, je suis un amoureux du Vercors. Alors, ouais. Nathalie l'a abordé côté historique, je vais l'aborder côté nature, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, sa majesté le Vercors, aux confins des départements de la Drôme et de l'Isère, comme ça on fera pas de jaloux entre les deux départements d'ailleurs, et ben ce sont ces hauts plateaux calcaires entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, vus d'avion. Si vous avez eu l'occasion de le survoler en avion, on dirait une immense forteresse minérale, un vaisseau de pierre surgi de nulle part. Et j'aime bien ce côté monde à part. C'est un entre-deux, le Vercors. Ça lui donne beaucoup de cachet, beaucoup de caractère.
C'est vrai parce que c'est ni de la haute montagne, ni de la moyenne molle. C'est vraiment un monde assez difficile à décrire.
Mais c'est pour ça que je l'adore, Philippe, justement. C'est ce qui fait tout son charme. Et puis, toutes ces prairies bien vertes et bien grasses, ces forêts profondes dans lesquelles il fait bon se perdre. Et quand je dis se perdre, je suis sérieux. Vous savez que je viens des Vosges et que j'aime beaucoup les forêts profondes. Je me suis perdu dans ce côté un petit peu petite Finlande qu'on peut trouver sur les plateaux du Vercors. C'est impressionnant.
C'est le moment d'aller dans le Vercors, là ?
Oui, parce que justement, il y a une actualité en ce moment. C'est que le parc naturel régional du Vercors fête ses 50 ans cette année. Il a 50 ans, ce parc, cette nature préservée. Alors, c'est une préservation aussi bien des espaces naturels que du patrimoine humain. J'entends par là, le Vercors, c'est aussi le royaume des bergers et des éleveurs. fraîcheur et du pastoralisme. La mais chance c'est... que j'ai eue, justement.
Philippe.
Ah ben voilà, j'ai eu la chance de rencontrer justement un berger qui a pu me faire. Alors, faut faire attention parce que les troupes à côté des troupeaux, il y a les fameux patous, hein, les gros chiens, donc faut être assez prudent. J'ai eu la chance de rencontrer ce berger. On a pu discuter un petit peu de sa vie. La gestion d'un troupeau, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Il y a beaucoup de travail. Les brebis sont pas toujours très fiables. Et puis aussi, c'est une vie très rustique, le métier de berger. Et ça, c'est dans le Vercors, vous allez pouvoir, en rencontrant ces bergers, voir que finalement, ils ont une vie particulièrement rude. Bernard Villardière en parlait tout à l'heure, sont des gens courageux et fiers.
Olivier.
Vous n'avez pas apporté de fromage
Non, je l'ai dégusté, j'ai tout mangé, Olivier, je suis désolé. Il reste
on
rien.
On l'aurait mis dans le gratin, sinon.
Ah oui, c'est vrai. Après, j'en pince plutôt pour le bleu de Sassenage, en fait.
Alors, comment on s'imprègne au mieux de tout ça? Comment? Parce que c'est pas facile, là, vous décrivez une carte postale, mais comment on fait corps avec cet
endroit? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, le grand classique, évidemment, je suis sûr que ça va plaire à Olivier et Nathalie, tout simplement la randonnée pédestre, non? Allez, un peu de randonnée pédestre. Ou le VTT.
Elle a fait la grimace. Pourquoi vous faites la grimace?
Je ne suis pas une grande marcheuse, moi.
Bon, alors, j'ai quelque chose pour vous.
Mamie a du mal à bouger. Hein.
Mais qu'est-ce qu'elle ferait, mamie, dans le Vercors, alors?
Un VTT électrique.
Elle irait sur les traces de l'histoire, le sel de la grande histoire, puis bouffer, accessoirement.
Ah bah justement, j'ai une super proposition pour vous trois, messieurs, dames. C'est la formule balade avec une mule. Comme ça, vous ne portez rien. Hein. Vous avez juste votre petit sac avec.
Ça me va.
C'est parfait. Avec, attention, alors ça va se corser un peu. L'option balade avec mule et bivouac le soir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un hôtel, on n'est pas en gîte, on est en pleine nature. Moi, j'ai vécu ce moment-là, c'est absolument très prenant. On fait corps avec cette nature.
On a mal fait ça assez vite.
On n'est pas sur la mule. On est à côté de la mule. La mule, c'est pour le bas. C'est la mule qui transporte. En fait, vous avez un rapport avec la mule. Parce que vous occupez d'elle, il faut lui donner à manger.
Il faut
la faire avancer. C'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis le soir.
Mais vous savez qu'une mule.
500 mètres en une demi-journée, quand même, c'est pas mal.
C'est têtu.
Mais c'est on dit que les ânes et les mules sont têtus, mais en fait, ils ne sont pas têtus, ils sont intelligents parce qu'ils réfléchissent avant de faire quelque chose. Et si vous les forcez à faire quelque chose qu'ils trouvent stupide, ils ne voudront pas, mais c'est par intelligence.
Ça fait partie de l'expérience, justement, d'être guide. Alors, souvent, on fait cette balade avec un ânier, ça s'appelle un ânier, c'est celui qui est responsable des ânes, qui vous donnera quand même quelques petites astuces pour préparer ensuite votre balade et votre bivouac le soir. Voilà.
Bon, et puis le soir, c'est la Voie lactée, c'est le
Ça, c'est merveilleux, ça, je l'ai vécu. Vous êtes à la Belle Étoile, il fait un peu frais quand même, hein. On est à plus de 1000 mètres d'altitude, je vous le rappelle. Mais alors, le ciel est complètement cristallin, vous faites corps avec les éléments, vous avez toute la Voie lactée qui est complètement sous vos yeux. Ça, c'est mon Vercors.
D'accord. Alors, ça, c'est le côté montagne agréable, douce, balade, mais si on veut des sensations un peu fortes.
Bon, vous savez que Bernard Lavilladière tout à l'heure a parlé d'adrénaline, mais je vais vous en proposer, moi, de l'adrénaline. On va aller du côté des baronnies, figurez-vous. Ça aussi, c'est dans le Dauphiné. C'est dans la pointe sud-est du département de la Drôme, les baronnies. Alors, c'est un autre coin de paradis nature et c'est surtout le paradis du parapente, justement. C'est là qu'on peut faire un baptême de parapente. Il n'y a pas besoin d'être sportif, Nathalie, je te rassure. Tout de suite, on peut faire un baptême en biplace avec un moniteur. On s'élance à peu près à 1000 mètres d'altitude.
Ça s'affiche la truie quand même, parce qu'à 1000 mètres d'un coup, quand on
n'en
a jamais
fait. C'est des pentécoles, Philippe.
Je sais, j'ai essayé, j'ai eu la trouille de ma vie.
Moi aussi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très agréable, très paisible.
Mais c'est très paisible, exactement.
Mais vous êtes très arrogant, parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir peur. Parce qu'on est assis sur un petit ruban qui fait à peu près les 5 cm de large et vous avez 3000 mètres de vide en dessous de vous. C'est horrible.
Sauf que Philippe, vous ne vous êtes pas laissé aller à vos sensations. C'est ça l'avantage du parapente quand on est dans les baronnies. On a aussi toutes ces odeurs de tilleul qui remontent du sol, qui vous chatouillent les narines.
Les odeurs de quoi?
Du tilleul en fleurs. Eh bien oui, c'est la saison.
Et des abricots, il y en a beaucoup là-bas.
Voilà. Et puis alors, si vous êtes un petit peu à l'aise, vous aurez le moniteur en tandem. Je vous rappelle qu'on est en tandem, c'est pas vous qui pilotez ce parapente. Le moniteur, de temps en temps, vous fera quelques petites manœuvres. Tout ça avec les villages des baronnies à vos pieds. C'est quelque chose de spectaculaire.
Ben moi, j'achète.
Ouais. Ah bah voilà, c'est vendu.
Moi, je préfère la partie d'après pour se remettre des émotions.
C'est ça, pour se remettre des émotions. On va filer dans la vallée du Rhône, du côté de Tain-l'Hermitage. Oui, Olivier, Tain-l'Hermitage.
Bien y aller aussi, capitale des grands vins du Rhône.
Vous allez voir qu'il y a une expérience incroyable à vivre sur place. Une expérience de nature romantique, comme je les aime. C'est un rendez-vous qu'on se chuchote à l'oreille. C'est un moment d'exception qu'on voudrait garder secret. C'est un événement qui est proposé une dizaine de fois pendant tout l'été, en début de soirée. C'est le bar éphémère à la chapelle de l'Ermitage, au milieu des vignes. Alors, c'est un grand moment. On y accède à pied à ce petit bar éphémère. Il y a une quinzaine de personnes. Il faut effectivement réserver sa place. C'est vraiment pour les happy few. petite table installée. J'ai vécu ça, c'était merveilleux. Moi, j'ai préféré l'option transat. Il y a des transats. On est au milieu des vignobles. En face de soi, il y a la vallée, la vue panoramique sur la vallée du Rhône, les monts d'Ardèche.
J'ai l'impression que votre cœur a battu endroit.
J'étais accompagné, je vous le dis, parce que c'est un endroit tellement romantique, c'est dommage de le faire tout seul. Voilà, et c'est en même temps convivial. On grignote des tapas, on déguste quelques petits verres de vin blanc et rouge. On profite du soleil couchant qui embrase ses couleurs chaudes. Et puis, vous savez que j'aime bien le côté olfactif aussi dans ces expériences. Et ben, c'est toute l'odeur de la sève des vignes qui vous,
vous
enveloppe.
Au cœur d'un des plus beaux vignobles du monde, le vignoble de l'Ermitage.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Bernard, merci les amis. Je vous propose maintenant de prendre notre souffle. Parce que après cette merveilleuse découverte du Dauphiné, nous allons aller encore plus loin, nous envoler. En deuxième heure, juste après les infos, nous oublions toutes les restrictions, les confinements sur Europe 1. Tout est possible. Nous nous envolerons pour l'un des pays les plus fascinants d'Amérique du Sud. Prévoyez bouteilles d'oxygène et t-shirt pour la chaleur. A tout de suite.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait ? Si on partait cette fois pour cette deuxième heure, très très loin, dans ce qui est pour moi l'un des derniers Far West. Un pays rude, dur, à des altitudes invraisemblables qui montent à plus de 6000 mètres. La capitale administrative, elle, pousse à 4000 mètres. Imaginez la capitale d'un pays presque à l'altitude du sommet du Mont Blanc. Elle donne un climat qui peut être glacial, mais aussi brûlant. Brûlant pour la peau, notamment parce que on n'est pas si loin que ça de l'équateur. Donc imaginez le soleil tropical qui tape fort et le tout en haute montagne. Des paysages arides, parfois lunaires sur les hauteurs, et puis tropicaux avec des jungles luxuriantes dès qu'on descend. C'est le pays de tous les extrêmes. Je vous emmène aujourd'hui en Bolivie. Alors la Bolivie, c'est un choc dès qu'on y pose les pieds, parce qu'en général, on atterrit à La Paz, la capitale administrative. Et le premier souvenir que j'ai de La Paz, c'est qu'à peine sorti de l'aéroport, j'ai dû aller me coucher. J'ai dû aller m'allonger à l'hôtel 24 heures. Pourquoi ? Parce que l'aéroport, il est à 4000 mètres d'altitude. Et 4000 mètres direct quand on sort de l'avion, c'est très très rude pour le corps. En quelques heures, le mal d'altitude vous envahit. Alors, c'est une sensation qui est très désagréable. Chez moi, c'est mal de tête, nausée et puis une sorte de bourdonnement bizarre dans le crâne. Un mal d'altitude qui est mal géré, ça peut être très grave. Il faut y aller tout doux au début, faire le moins d'efforts possible, le moins de mouvements, laisser son corps s'acclimater. Donc, si vous allez à La Paz, ne prévoyez pas une soirée boîte le jour de l'arrivée, c'est juste pas possible. Et c'est pas tout. Niveau émotion forte, à La Paz, vous êtes servi. Parce que c'est une des villes les plus incroyables de cette planète. C'est la capitale la plus haute du monde. Vous atterrissez sur une zone assez plane qui s'appelle l'Altiplano. Et puis, quand vous avancez, tout à coup, sous vos yeux, vous avez un canyon gigantesque qui fait 800 mètres de profondeur. Et la ville est accrochée au versant de ce canyon. C'est une ville qui paraît assez rouge, faite de briques. Et c'est une ville à l'envers. Les bas quartiers sont en haut, parce qu'à 4000, il fait plus froid, donc les pauvres sont en haut, avec la belle vue, certes, mais il fait très frais. Et puis en bas, dans le fond du canyon, vous avez les quartiers huppés, parce qu'il fait meilleur. Et puis, ce qu'il y a de marquant aussi en Bolivie, ce sont les visages, car 60% de la population est d'origine amérindienne. Sont les descendants des Incas. Quand vous voyagez en Bolivie, c'est un petit peu comme aller chez les Incas d'aujourd'hui. Bref, on ne va pas en Bolivie pour roucouler tranquillement sur une plage, on y va pour les émotions fortes.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Donc on va se lancer. Alors oui, la Bolivie, ça peut faire un peu peur comme ça, il y a un petit effroi hein, quand on prend son billet d'avion.
Quand je vous écoute, je réfléchis à deux fois avant d'y aller quand même.
Mais on va y aller ensemble, en profondeur, avec toute la petite bande. Nathalie Elal, Olivier Pouls, capable de nous trouver à manger dans n'importe quel endroit du monde.
Même en Bolivie.
Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui nous donnera les bonnes idées pour voyager sans se faire mal. Et puis dans un instant, nous serons en ligne avec un Français qui a passé presque 20 ans de sa vie là-bas, dans ce pays complètement fou. Il est même devenu franco-bolivien. Il sera en direct de La Paz. À tout de suite sur Europe 1. Et si on partait très très loin dans cet étrange pays qu'est la Bolivie ? Alors je vous ai raconté combien l'arrivée était rude dans ce pays, le choc visuel immédiat à la sortie de l'avion. Eh bien, Jérôme Benassi, lui, il est installé en Bolivie depuis 20 ans. Et lui, il aime tellement ce pays qu'il est devenu bolivien. Il vit à La Paz, il co-dirige une agence de voyage qui s'appelle Taki Voyage. Moi, je trouve que cette arrivée dans le pays est tellement spectaculaire, tellement forte, avec cette ville accrochée sur les flancs d'un canyon, qu'on est envahi par les images, par le paysage. Mais en vrai, dès qu'on reste un petit peu, ce qui est encore plus surprenant, ce sont les gens, les visages, les hommes et les femmes surtout, qui ont des tenues vraiment surprenantes. Bonjour Jérôme.
Bonjour Philippe.
Vous êtes à La Paz?
Effectivement, je suis à La Paz, à 3600 mètres d'altitude.
Oui, parce que La Paz est sur un versant, donc il y a 800 mètres de nivelé entre le bas et le haut de La Paz. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que je trouve que visuellement c'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive aussi, c'est à quoi ressemblent les femmes là-bas? Elles ont un look incroyable.
Bah écoutez, c'est vrai que la Bolivie est un pays de contraste, et les femmes en tout cas dans la région des Andes, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est des petits bouts de femmes avec des chapeaux melons et des jupes et plusieurs jupons, et elles sont en général accompagnées d'un petit tissu qu'on appelle de l'aguayo sur le dos, et ces femmes, ce sont des cholitas, et elles font partie intégralement du paysage, en tout cas des Andes, et c'est ça qui donne aussi cette couleur et cette différence, en tout cas quand on arrive dans les Andes.
Olivier,
nous on est ici à Paris, quel temps il fait là en ce moment à La Paz à 3600 mètres d'altitude? Quelle température, quel est le climat là en ce moment chez vous?
Ah bah, il fait très très beau, il y a pas
mais
un
moins
nuage. On est rentre. Non. C'est vrai qu'à 3600 mètres, la plupart des personnes me demandent, mais il doit faire très froid. En fait, pas tant que ça. En tout cas, en journée, les températures sont positives. Là, il doit faire entre 10 et 15 degrés en journée, et le soir, une fois que le soleil tombe, effectivement, ça commence à pincer un petit peu. Ouais.
Mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin de l'équateur.
Ouais.
Donc oui, les altitudes sont très élevées, mais si c'était à une altitude plus basse, il ferait très très chaud.
Et puis surtout, on a un rayonnement solaire qui est très fort, puisque les UV sont peu filtrés.
Ouais, et c'est dangereux pour la peau, faire attention.
Il faut mettre beaucoup de crème, effectivement.
Moi, je dis souvent que c'est le dernier Far West, et quand on va profond dans le pays, la Bolivie, il y a des endroits improbables, complètement desséchés par le vent, le froid, l'altitude, où il y a très peu de visiteurs qui vont, et où les gens d'ailleurs n'ont parfois pas l'habitude de voir des étrangers, de voir du monde qui passe.
Bah effectivement, c'est ce qui fait le charme de la Bolivie, c'est qu'il y a énormément de zones où les gens n'ont jamais vu de personnes étrangères ou de couleur, on va dire, blanche, et c'est assez surprenant. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs ne parlent même pas l'espagnol, ils parlent le quechua ou l'aymara, qui sont des langues assez importantes en fait en Bolivie. Et il m'est arrivé, en tout cas, il y a quelques années, lors d'un voyage de reconnaissance, d'aller dans des endroits complètement perdus où on me regardait avec des grands yeux en me disant « Mais d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, c'était assez surprenant pour eux. Donc, heureusement que j'étais accompagné avec des personnes qui parlaient dans ce cas de figure l'aymara, afin de pouvoir converser, d'expliquer que j'étais venu dans un but complètement pacifique afin
de
développer le voyage en Bolivie.
Qu'est-ce qu'ils craignaient de vous ?
Bah, il voit quelqu'un qui a deux têtes de plus que lui, avec des yeux clairs et une couleur blanche, et il pensait que j'allais prendre l'or qui était situé dans les mines des alentours. Donc, effectivement, il faut justifier un petit peu que c'était pas le cas. Oui.
Et moi j'ai trouvé quand même que les alors j'aime pas faire des généralités sur les peuples, mais que les Boliviens et les Boliviennes notamment dont on a parlé ont quand même un caractère dans les Andes assez rude, assez dur. C'est pas toujours facile d'entrer en contact.
Bah c'est un peuple des montagnes, hein. Ils sont un peu bourrus. On va dire, je fais souvent l'analogie, c'est un peu comme des Gaulois. Il faut rentrer dans leur monde, et ça prend un petit peu de temps. Et une fois qu'on rentre dans leur monde, voilà, ils nous ouvrent les bras, et c'est beaucoup plus facile afin de pouvoir partager des choses, contrairement à la partie amazonienne où les gens sont beaucoup plus ouverts. Le climat influence énormément sur le comportement des gens. Donc c'est vrai que quand on vit à 3600 ou à 4500 mètres d'altitude, les gens sont un peu à l'image du climat dans lequel ils vivent.
Comme
en fait.
Souvent sur cette planète. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a... Moi, en Bolivie, l'endroit qui m'a le plus saisi, c'est le Salar d'Uyuni. C'est une immense, mais gigantesque tache blanche sur une carte. Je crois que c'est 12 000 km² plate, couverte de sel. Donc 12 000 km² d'une blancheur pure. Vous y êtes allé là-bas ?
Oui, bah, c'est l'un des premiers endroits que j'ai découvert en arrivant en Bolivie en 2002. Et en plus, j'y suis arrivé à l'époque de la saison des pluies sur ce Salar d'Uyuni. Donc, ce qui permettait d'avoir sur cette face immaculée le reflet du ciel avec l'eau qui était présente sur le Salar. Comme vous l'avez mentionné, c'est quasiment la superficie de la moitié de la Belgique, pour vous donner une idée.
La moitié de la
Belgique, c'est assez impressionnant.
Rien que de sel, ouais. Et en plus on peut rouler en voiture pendant des longs moments avec ce blanc à l'infini.
Exactement.
Quelques cactus de ci, de là, c'est merveilleux. Nathalie ?
Qu'est-ce qu'ils en font, les Boliviens, de tout ce sel ? Est-ce qu'ils l'exploitent ?
Ils salent les frites.
On perd déjà
alors,
le fil.
Effectivement, il y a du sel pour la consommation, mais il y a surtout sur le Salar d'Uyuni, c'est la plus grande réserve de lithium au monde, en fait. Donc,
D'accord.
Il y a des entreprises qui commencent à exploiter ce lithium afin de pouvoir l'utiliser et fabriquer des batteries de téléphones portables.
Mais ça risque pas de faire disparaître le Salar si on exploite le lithium à fond ?
Bah écoutez, ça, c'est des. C'est entre les gouvernements et le tourisme. Voilà, c'est des négociations qu'il y a. Pour le moment, il n'y a pas trop d'impact. Il faut voir un petit peu ce qui se passe dans le futur, tout en préservant le Salar et voir aussi, au niveau du gouvernement bolivien, son intérêt économique.
Jean-Bernard.
Jérôme, j'ai une question sur la partie amazonienne qui me fascine de plus en plus. Est-ce que c'est une région qui se développe sur le plan de l'accueil touristique ?
De plus en plus, c'est vrai que quand on parle de Bolivie, on parle des Andes, du lac Titicaca, des condors, des lamas. Il faut pas oublier qu'en Bolivie, l'altiplano, donc tout ce qui est Andes, représente 30% en fait du territoire. Les 70% restants sont constitués de vallées interandines et d'Amazonie. Et c'est vrai que de plus en plus, l'offre, en tout cas sur l'Amazonie, se développe, avec notamment le parc Madidi, qui est l'une des plus grosses réserves naturelles au monde, où on peut apprécier le début de l'Amazonie. Et c'est vrai que la Bolivie n'est pas connue forcément pour tout ça, mais ça commence à se développer. Et c'est vraiment cette force à ce pays.
On va prendre le temps de découvrir tout ça. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1, bien sûr. Alors en Bolivie, j'ai un souvenir vraiment très fort parmi tous mes voyages en train. C'est un vrai train, pas comme les autres. Ça se passe au milieu des Andes, sur une petite ligne qui fait 60 km de long, une ligne tortueuse, une ligne de montagne en assez mauvais état, et qui passe par des villages qui sont desservis exclusivement par le train. Il n'y a aucune route. C'est-à-dire que si vous habitez ce village et que vous voulez aller à la ville, eh ben c'est en train ou à pied. Donc cette ligne, elle est absolument vitale. On ne peut pas s'en passer. Alors donc je suis allé à la gare pour prendre ce train et quand je l'ai vu, c'était une surprise parce que au premier coup d'œil, on ne voit pas un train, on voit un bus, un vieux bus Mercedes des années 80. Un bus, mais sur des rails, avec des roues de train. Un bus bricolé. À l'intérieur, rien n'a changé. On a laissé le volant qui donc tourne dans le vide, forcément. Et puis le siège du conducteur est resté le même, avec un levier de vitesse au sol. C'est donc une sorte de bricolage ferroviaire totalement improbable. Et en discutant avec le conducteur, je me rends compte qu'il est quand même assez fier de son joujou. Il est même en train de l'astiquer comme une voiture neuve, parce que chacun sait dans cette région que c'est un petit trésor. Le perdre serait une catastrophe. Il est l'engin qui permet d'aller chercher des vivres, d'aller voir le médecin en ville, de transporter les marchandises à vendre au marché. Bref, il est indispensable à la vie. Alors les voyageurs commencent à arriver. Très vite, ce bus carril, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, est bondé. L'engin démarre et là, le son est assez étonnant. C'est le son d'un vieux bus diesel, forcément, et pas du tout d'un train. On part, ça se coupe pas mal, les suspensions ont gagné en moelleux dans la transformation. Et, sauf que j'ai fait une petite erreur. J'ai pris un billet pour le terminus, je me suis dit 60 km, pas de problème.
et j'ai pas vérifié la durée du voyage. Donc je demande au chauffeur et il me répond « Ah ben ça dépend, hein, entre 6 et 8 heures. Ça dépend de ce qu'on va rencontrer sur la voie et du nombre d'arrêts qu'on va faire, hein, ça, je peux pas vous dire. » Et moi je lui dis « Mais 8 heures pour 60 km, c'est quand même, c'est pas une grosse moyenne. » Et là j'ai adoré sa réponse « Ah mais il n'y a pas de problème, on a l'habitude, pourquoi vous êtes pressé ?» Donc 8 heures, alors pourquoi 8 heures ? Il faut imaginer, vous êtes villageois, vous voulez aller à la ville. Donc vous prenez vos valises, vous emmenez vos enfants et vous marchez, parce que vous êtes à la montagne, la voie ferrée elle est loin. Donc vous marchez pendant une heure ou deux avec des pentes invraisemblables. Vous allez rejoindre la voie ferrée et vous attendez le train, plus ou moins longtemps, parce que vous l'avez compris, les horaires sont fluctuants. Quand le train arrive, vous lui faites signe, il s'arrête, pas besoin de gare. Donc forcément le train, il ne peut pas aller vite puisqu'il s'arrête tout le temps et il ne sait pas bien où. Ça, c'est l'explication pour les 8 heures. Ça a l'air facile pour le passager, mais il y a un très gros inconvénient. C'est que le bus, il est souvent plein. Donc si vous faites signe et qu'il n'y a plus de place, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne s'arrête pas. Et le train suivant, il est dans 2 jours. Donc vous reprenez vos valises, vous remontez en haut de la montagne avec vos valises et vos enfants, et vous priez pour que ce ne soit pas la même chose 2 jours plus tard. Et ça, on n'imagine pas ici ce que ça peut être de dépendre entièrement de tout ça pour se déplacer. Et je vous assure que quand on a connu le Buscaril de Bolivie, on ne râle plus chez nous quand le train a 15 minutes de retard. Et je peux vous dire aussi que ce qui m'a touché, c'est l'amour de tous les habitants et notamment du conducteur pour ce train. Au début, pour moi, c'était juste un vieux bus bricolé. Mais pour le conducteur, il y a quelque chose de très fort. C'est même pas seulement la technique qui lui plaît. C'est rendre service, c'est faire de son mieux pour aider les membres de toute sa communauté et avoir la conviction avec son vieux bus Caril qu'il est un rouage essentiel. Et ça, c'est très très touchant.
Et si on partait sur Europe 1 ? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Et c'est vrai que la relation au temps en Bolivie n'est pas tout à fait la même que chez nous.
J'ose pas imaginer s'il fallait attendre 2 jours en métro.
Vous imaginez ? Ah, non, mais après avoir gravi la montagne, oui, hein, oui. Et puis être revenu. Mais bizarrement, j'ai l'impression quand même qu'attendre ou faire là-bas ce qu'on appelle nous perdre du temps, c'est pas forcément grave. C'est pas le même lien. On est toujours en ligne depuis La Paz en Bolivie avec Jérôme Benassi. Il y a une espèce d'aura boliviana, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas.
Oui, c'est l'heure bolivienne, effectivement. En Bolivie, on ne pense pas en distance, on pense en temps. Et du fait des trajets qu'on emprunte, des routes qui sont pas en bon état, des problèmes mécaniques, et je crois que ça impacte toute la société, en tout cas une grande partie de la société, où un horaire n'est pas forcément respecté et on vit avec. On peut nous donner un rendez-vous à 1 heure et généralement quand on arrive à l'heure, on attend. Donc avec le temps, on arrive un peu plus tard pour essayer de se caler avec tout le monde. Sinon, on commence à râler un peu trop. Voilà.
Alors, et la relation à la nature et la terre est très particulière. La terre-mère, c'est quelque chose là-bas.
Effectivement. La Pachamama, donc la déesse de l'abondance, est quelque chose de très très important dans les Andes. C'est vraiment toute une philosophie de vie qui existe depuis des siècles, en tout cas en Bolivie, dans les Andes, puisque c'est tout un art de vivre, c'est je donne et je reçois, donc assez régulièrement lors de festivités, avant de trinquer. Nous versons un petit peu de bière ou de la boisson qu'on a pour faire une offrande à la déesse de la terre, à la Pachamama.
Attendez, ça va intéresser Olivier. Vous voulez dire qu'avant de boire un coup, on met un petit coup de bière par terre pour célébrer.
Exactement. Bah, ouais, quand mettre par terre.
Quand c'est du bon vin, c'est sympa.
Ouais.
Nathalie, vous avez une histoire.
Oh non, mais j'ai une bêtise là qui me passait dans la tête. Moi, j'avais envie de dire que je pensais tout de suite à Barba Mama, mais moi, je suis une blonde. Hein, je suis restée à la famille
des Barba Mama. Mais
oui,
Pachamama.
Mais oui, ça m'a fait rire le nom comme ça. Je me faisais.
C'est pour ça que vous nous interrompez.
Non, c'est vous qui m'avez donné là. J'ai tendu la perche. Alors j'ai sorti ma bêtise.
Il y a Barba Truc aussi.
Ouais, Barbie Bulle et tout. Voilà.
Et, mais c'est vrai que dans les mineurs, par exemple, dans l'incroyable mine de Potosi, qui est une énorme mine d'argent en Bolivie, quand vous les suivez dans la mine, eh bien régulièrement, il y a des offrandes, un paquet de cigarettes, une canette de bière, etc., pour la terre, pour qu'elle les protège, pour qu'elle leur délivre de l'argent, etc. C'est très important. Et finalement, c'est une forme de respect pour la nature.
Exactement. Bah c'est, il faut offrir pour recevoir. Et c'est vraiment très ancré dans la culture andine, en tout cas. Le leitmotiv de beaucoup de la manière de vivre. Et c'est vrai que quand on va à la campagne et qu'on partage des moments avec des communautés, avant de commencer les festivités, il y a tout un process, un rituel en fait, qui où tout le monde verse quelque chose par terre pour justement donner à la Pachamama, parce que derrière elle va nous rendre encore plus de ce qu'on a donné.
Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous depuis La Paz. C'est quand même pas tous les jours. On se retrouve dans un tout petit instant parce que il y a l'autre Bolivie, celle dont on n'a pas encore beaucoup parlé. On a découvert la Bolivie des Andes, des montagnes, mais au pied des Andes il y a l'Amazonie. Et là, on change complètement de décor et c'est dans quelques instants sur Europe 1. La Bolivie, on repart en Bolivie tout de suite. Alors, on a bien compris que c'est un pays assez rude, avec des Andes magnifiques qui montent à plus de 6000 mètres d'altitude. Mais on a peu parlé de la forêt, parce qu'au pied des Andes, il y a l'Amazonie. Et là, dans la forêt, l'ambiance est tout autre. La forêt, c'est...
On y est. Hein.
Ouais, on y est. C'est d'abord des sons. Quand vous vous promenez en forêt, vous ne voyez pas grand-chose. Vous entendez surtout des sons d'animaux.
Quand on le voit, c'est trop tard, quoi.
Oui, parce que les animaux, en fait, vous ne les voyez pas, vous les entendez. Vous voyez autour de vous du vert, des sons et des animaux que vous n'apercevez que très rarement dans une végétation très dense, parfois tellement dense que c'est sombre. Et en Bolivie, il y a un petit son en plus. Alors ouais, c'est assez inattendu, parce qu'en Amazonie, il y a ce qu'on appelle les missions. Les missions sont les églises, les collèges, les édifices qui ont été construits lors du passage des missionnaires jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle, qui étaient venus évangéliser la région, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, pas toujours en douceur. Et ces édifices sont toujours debout, et voilà donc la musique en pleine Amazonie qui peut en sortir. On se dirait, comme ça, en première intention, que c'est de la musique baroque, mais ce n'est pas totalement baroque. Il y a un truc un peu baroque, justement,
ouais, un peu, ouais.
Dans cette histoire-là. Alors, en ligne avec nous, Jean Guiram, qui s'est passionné pour cette histoire. Bonjour, vous êtes avec nous depuis la Bolivie.
Bonjour Philippe.
Alors, d'où vient ce son, cette musique étrangement amazonienne ?
Eh bien, c'est une vieille histoire et c'est une histoire absolument extraordinaire. En fait, vous disiez que la christianisation a été quelquefois assez rude, mais pas vraiment en Amazonie. Et les jésuites avaient repéré chez les populations de la zone un goût pour la musique, pour la danse. Et donc, pour évangéliser, il fallait attirer son monde, et donc ils les ont invités à apprendre la musique, à jouer de la musique. Les jésuites étaient des personnes extrêmement cultivées, architectes, musiciens. Ils leur ont appris à construire, à fabriquer leurs violons, leurs flûtes. Et cette aventure est absolument extraordinaire. Et ce que l'on vit aujourd'hui, c'est justement le résultat de ce long processus depuis les jésuites jusqu'à maintenant.
Vous voulez dire que...
Qui a été difficile, parce que c'est une histoire un peu compliquée.
Vous voulez dire que les habitants de l'Amazonie d'aujourd'hui continuent à jouer cette musique baroque que leur ont apprise les jésuites ?
Absolument. C'est tout à fait ça. Et vous savez, bon, les fameuses missions, reducciones, comme on dit en espagnol, ont fait l'objet d'une réhabilitation dans les années 60-70 grâce à l'UNESCO. Et à ce moment-là, on a découvert dans ces églises qui étaient toujours là, mais un peu abîmées, on a découvert des centaines et des centaines de partitions de musique écrite par les Chiquitos, les habitants de la région, ou les Guarayos, d'auteurs anonymes. Et on a aujourd'hui un patrimoine musical absolument extraordinaire.
Donc c'est pas tout à fait, c'est pas de la musique baroque de chez nous. C'est de la musique composée là-bas, mais façon baroque.
Et absolument. C'est ça c'est d'ailleurs, c'était tout l'objet des jésuites, c'est-à-dire c'était d'indigéniser, de localiser un petit peu l'art, par exemple les peintures, la sculpture, tout ça, ça a une connotation locale importante, et la musique aussi. Donc c'était de façon à rendre la religion chrétienne, disons, familière aux populations locales.
Olivier ?
Mais est-ce qu'il y a de ces compositeurs qui sont devenus connus, un peu célèbres, qui sont devenus des Mozart boliviens ?
Alors, la plupart des partitions sont anonymes. Donc, on n'a pas d'auteur particulier.
Il y a peut-être des Mozart, mais on ne les connaît pas. Et qu'est-ce qui vous a ému dans cette histoire ? Parce que ça doit être touchant de voir parce que c'est souvent des très jeunes qui jouent là.
Absolument,
voir des gamins de l'Amazonie en train de jouer ce genre de musique.
Écoutez, tout a débuté en 2008. Je me baladais dans cette région qui était à l'époque très difficile d'accès. Ça l'est beaucoup. C'est aujourd'hui plus acceptable parce qu'il y a des routes asphaltées. À l'époque, il n'y avait rien. J'étais dans un petit village où il y a une très belle église justement de cette époque-là qui s'appelle Santa Ana, un patelin de, je sais pas, peut-être un millier d'habitants, avec une jolie petite église. Et là, bon, visitant cela, je suis rentré dans l'église et là, il y avait un petit groupe de gamins, vraiment, alors pieds nus, en t-shirt, qui jouaient Vivaldi. Et là, pour moi, c'était un choc émotionnel très, très fort, quoi.
Pourquoi est-ce qu'ils continuent à jouer cette musique aujourd'hui ? Parce que les jeunes d'Amazonie, ils ne sont pas coupés du monde, ils ont aussi Internet. Pourquoi c'est important pour eux de perpétuer ça ?
Ben écoutez, c'est une fierté d'abord parce qu'elle elle est distincte des autres, en quelque sorte. Et en même temps, ils sont porteurs de ce passé. Vous voyez, le passé, dans l'Amérique du Sud, aujourd'hui, il y a un renouveau de cette fierté de l'époque précolombienne, où il y avait quand même une civilisation, il y avait des gens qui avaient leur culture. Et donc, il y a une certaine fierté de ce passé. Et jouer ces musiques, c'est en quelque sorte porter un peu cet esprit.
Est-ce que c'est un moyen de se donner une identité, de se différencier des Andes,
par exemple ? C'est certain, parce que non, celui qui joue de la musique, eh bien, il est différent des autres qui ne le jouent pas. Quoi. Et il la joue bien en plus.
Merci beaucoup. C'est un drôle de voyage que vous nous avez fait faire, parce qu'on ne s'attend pas du tout à trouver ça en Amazonie. Merci Jean Guéram.
C'est une région absolument magnifique, surtout que maintenant, bon, vous pouvez y accéder plus facilement.
Ouais.
Ben, Monsieur Benassis, certainement, peut organiser les choses très bien.
Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Jean. Je suis obligé de vous quitter parce qu'on a plein de choses encore à découvrir. La Bolivie, c'est très, très fort, je vous l'ai dit, en émotion. Est-ce que c'est fort en goût aussi, en saveur? Alors, personnellement, je n'ai pas des souvenirs très émus.
Mais il n'y a pas le gratin bolivien,
non,
si je peux déjà vous le dire. Mais on va trouver l'autre chose, vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'il y a un étonnant point commun, finalement, entre la Bolivie et le Dauphiné dont on parlait tout à l'heure.
La patata
Peut-être.
Bon, on en parle dans un instant sur Europe 1. Alors, un petit défi, Olivier, parce que franchement, je ne sais pas comment vous allez faire. Moi, je serais bien embêté si on m'avait demandé de faire la promotion de la gastronomie bolivienne.
Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas à vous la cuisiner déjà, puisque je précise que ce studio n'étant pas équipé d'une cuisine,
hélas.
Je ne suis pas obligé de m'y mettre. Je vais simplement essayer de vous en parler.
Mais c'est que moi, j'ai mangé que des patates là-bas.
Alors, c'est le pays de la patate, effectivement, la papa. comme on l'appelle là-bas, la papa. Alors, ça fait le lien avec le Dauphiné dont on parlait tout à l'heure, puisque nous, on connaît les pommes de terre depuis quelques centaines d'années, à peine, et eux, ils les connaissent quand même depuis 7000 ans.
Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes papas.
Alors, il faut dire qu'ils ont 120 variétés de pommes de terre. Ça vous laisse le choix. Alors, pour faire du gratin, des frites ou de la purée, là, servez-vous. Bon, sur les 120, on ne les mange pas toutes. On en mange une bonne dizaine ou une bonne quinzaine, mais l'intérêt de la pomme de terre, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui est assez calorique quand même, hein, et quand on vit à 3600 ou 4000 mètres d'altitude, on a bien compris qu'on avait besoin de prendre un petit peu de force, donc la pomme de terre, elle en apporte. Et puis surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un tubercule qui s'adapte à des conditions climatiques assez, assez difficiles, et donc notamment en montagne, on peut la cultiver.
Et la conserver.
Et alors la conserver, et ça c'est l'un des enjeux, et pour ça ils ont ce qu'on appelle les chugnos, je ne sais pas si vous avez goûté ça.
Non.
Alors ça ce sont des pommes de terre qui sont déshydratées, et justement l'enjeu de la conservation c'est quelque chose de compliqué, hein, notamment pendant les périodes hivernales, etc. Et donc c'est une technique de séchage de la pomme de terre qui dure plusieurs semaines, et donc ça fait une pomme de terre qui finalement elle va devenir toute petite, elle devient au final, elle est grosse comme une noix, il n'y a plus d'eau à l'intérieur, mais elle peut se conserver pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années.
Et c'est bon ?
Alors, non, c'est pas bon comme ça. et surtout, ça ne peut pas se manger tel quel, parce que vous avez une concentration telle, et la pomme de terre, il faut savoir qu'elle contient, notamment en dehors de l'amidon, etc., elle contient dans sa fécule une petite substance qui, à très haute dose dans le corps humain, n'est pas très bonne. Donc il faut ensuite la réhydrater, l'utiliser dans des préparations, notamment dans des... Voilà, exactement.
Et c'est Jean-Bernard, vous avez goûté beaucoup ce genre de choses ?
Non, mais alors les patates, oui, mais ça, j'ai pas eu le souvenir d'avoir eu ces petites noix.
Mais on les mange pas comme ça. Une fois encore, on peut les retrouver dans certains plats.
Ça doit être pas mal, ça, non ? Dans les bars de la Paz.
On peut essayer, mais je suis pas sûr que vous serez en grande forme.
Mais dites donc, les amis, c'est pas là-bas qu'on mange aussi du cochon d'Inde ? Enfin, on mangeait encore il n'y a pas longtemps.
Mange, hein. Je pensais que c'était toujours.
Alors, c'est plutôt le Pérou, non ?
Parmi les curiosités, on mange du cochon d'Inde et on mange aussi du lama, figurez-vous. Alors, si vous êtes amateur de viande et de choses un peu exotiques, là-bas, le lama, qui est un animal qui sert pas uniquement à être mangé ou à la laine, qui est un vrai animal aussi.
Animal de bas.
De bas, il le mange.
C'est un petit peu plus tendre que le chameau.
Mais ça a quel goût ?
J'aime bien les comparaisons de Jean-Bernard. Non, mais le lama, c'est trop tendre par rapport au chameau. Mais le cochon d'Inde, j'aime bien.
Le lama, c'est quelle partie que vous préférez ? C'est plutôt les côtelettes ou filet ?
En filet, bien sûr. Filet. On va aller sur le filet quand même. Hein.
Alors, on revient sur les patates ?
Oui, on revient. Alors, l'un des plats incontournables qu'il faut manger si on va en Colombie, ça s'appelle les relleños des papas. Alors, ça, c'est très bon. Et en plus, on peut le faire ici, c'est pas très compliqué. C'est une purée de pommes de terre. Qu'on constitue, qu'on fait assez solide, hein. On ne met pas beaucoup de lait, on met juste un petit peu de beurre, et on va farcir cette purée de pommes de terre avec des œufs durs, des oignons qu'on aura fait suer, un peu de paprika, on met tout ça au milieu, on en fait une espèce de boule qu'on cuit d'abord au four et ensuite qu'on frit.
Ah ouais.
Et donc c'est un côté un peu croustillant à l'extérieur, on a la purée qui reste moelleuse, ça tient encore, hein, mais toute la cuisine là-bas tient encore.
Et les diététiciens, ils font faillite là-bas, comment ça se passe ?
Ben, comme je pense qu'ils dépensent pas mal de calories, parce que si effectivement ils doivent faire 2 heures de marche pour aller prendre un train, qu'ils ne prendront pas d'ailleurs, et refaire 2 heures de marche dans l'autre sens, je peux vous dire que vous pouvez manger quelques rouleños des papas, vous ne prendrez pas de poids. Et sinon, évidemment, il y a un gros incontournable aussi, ce sont les soupes, parce que traditionnellement...
Elles sont très bonnes.
Voilà, c'était pas un pays très riche, et on ne faisait qu'un repas par jour, et donc il fallait prendre de la calorie, et sont des soupes, alors là c'est des bombes caloriques, hein. Pommes de terre, œufs, viande, cacahuètes, beaucoup de cacahuètes, alors soit entières ou alors soit mixées qu'on met dans la
J'aime
soupe,
bien l'expression
des céréales.
Des bombes caloriques déjà oui, rien que de le dire, vous avez pris 2 kilos.
Ça tient encore, et puis on ne peut pas parler de la gastronomie bolivienne sans parler du quinoa, évidemment, parce que c'est le premier pays exportateur de quinoa dans le monde.
Alors, je crois que c'était le Pérou.
Non, il paraît exportateur en tout cas, c'est la Bolivie, mais peut-être que le Pérou en produit davantage, mais pour une consommation locale. Eux en mangent aussi beaucoup. Alors c'est vrai que c'est devenu le produit tendance dans les quartiers chics de Paris, et d'ailleurs tout le monde mange maintenant sa salade de quinoa, mais eux, ça fait aussi quelques milliers d'années qu'ils la mangent. Ils en font des petites galettes aussi, délicieuses.
Est-ce qu'il est vrai, est-ce que vous savez, c'est parce qu'on raconte que comme on consomme beaucoup plus de quinoa maintenant chez nous, on a fait monter les prix là-bas,
mais bien sûr.
Et ça pose des problèmes.
sur place.
Alors, évidemment, puisque vous avez... Mais ça, c'est global, c'est l'économie mondiale. C'est qu'à partir du moment où l'Occident riche commence à s'intéresser à une denrée qui est une denrée importante pour la population, ben vous créez des distorsions. Et la population locale, qui avait l'habitude de payer son quinoa pas cher, voit le quinoa lui passer sous le nez et arriver chez nous pour faire des salades dans les bars véganes. Et je voulais toucher un dernier petit mot, si j'ai encore deux minutes. Il y a en Bolivie une autre particularité, c'est que vous avez le vignoble le plus haut du monde. Et des vignes qui poussent entre 1700 et 3000 mètres d'altitude, c'est insensé. En France, les plus hauts vignobles sont autour de 1000-1200 mètres. Au-delà de ça, on n'arrive plus à faire pousser la vigne. Et eux arrivent à produire des vins buvable, je tiens à préciser, j'ai goûté un ou deux, c'est pas très grand, mais c'est buvable, à 3000 mètres d'altitude, avec des cépages qui sont évidemment des cépages importés, qui avaient été importés notamment par les conquistadors espagnols, ou des cépages plus contemporains, comme le Cabernet Sauvignon, la Syrah. Mais goûtez un jour, quand vous y retournerez, pas tout de suite après avoir atterri, mais...
alcool plus mal d'altitude, oui, alors catastrophe. Là, vous êtes couché une semaine. Merci beaucoup, Olivier. La Bolivie, c'est un pays extrêmement riche, avec base de grosses, grosses émotions, dans tous les sens. Et pour y aller à la cool, il faut quand même quelques bons conseils, quelques secrets pour à la fois être tranquille, en sécurité, en même temps avoir les émotions fortes. Et pour ça, vous pouvez compter sur Jean-Bernard Carrier qui va tout vous expliquer dans un instant sur Europe 1. Alors Jean-Bernard, on s'est fait un petit peu peur avec la Bolivie là pendant une heure. Maintenant, il faut que vous nous rassuriez. Est-ce qu'on peut y aller, vivre des émotions fortes, mais de manière un peu confort ?
Ce n'est que des émotions fortes, la Bolivie. Déjà, rien que l'atterrissage à l'aéroport de La Paz, l'aéroport international, à plus de 4000 mètres d'altitude. Ouais. Vous savez que les pilotes, parce que j'adore le milieu de l'aérien, les pilotes m'ont dit, en fait, il faut passer une qualification spéciale parce que l'air n'est pas assez épais. Donc, en fait, pour atterrir et décoller, c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de technicité.
C'est ce que vous nous dites pour nous rassurer.
C'est vraiment, même au niveau de l'aérien, il y a une spécificité pour la Bolivie. Ouais. Incroyable quand même.
Alors, s'il y avait une seule bonne raison d'aller en Bolivie, pour vous, qui êtes un grand voyageur, ce serait quoi ?
Alors, ce ne serait pas le lac Titicaca, ce serait en fait le coup de cœur que vous avez eu, vous l'avez mentionné, Philippe, Jérôme aussi l'a mentionné, c'est le fameux Salar de Uyuni.
C'est une merveille absolue.
Et j'ai envie de proposer quelque chose, c'est une salar-thérapie. On connaît la sylvothérapie, les bains de forêt, c'est la grande mode dans les forêts. J'ai envie de proposer une salar-thérapie parce qu'on ressent des émotions, il y a un ressenti très particulier dans cet univers de bout du monde, très cristallin, très minéral.
Et qu'est-ce qu'on fait ? On se plonge dans le sel ?
On marche sur cette banquise et ça crisse sous les pas. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Les cieux les plus purs du monde, je les ai vus sur ce salar de Uyuni. Le bleu est d'un bleu absolument incroyable, très cristallin, très pur. Ça vous change complètement la vie. Et puis, il y a aussi ce côté, il y a un côté magnétique, en fait. Voilà, cherchez le mot. Il y a un côté tellurique, magnétique. Et ça se ressent quand on est sur place.
Et il y a des petits travailleurs du sel, des gens qui essaient de récolter le sel. Alors, c'est très limité, il y en a très peu. Et ils travaillent avec des petits chapeaux pointus comme ça. Et ils vous font leur grand truc, c'est de vous faire goûter le sel. Alors, vous y allez.
Est-ce qu'il est meilleur que celui de Guérande ?
Je ne sais pas s'il est meilleur, mais en fait, ils vous font un piège, ils vous font boire de la saumure.
Oui,
et je vous jure que vous mettez 2 heures à vous en remettre. C'est salé, c'est insupportable sur la langue.
Alors en fait, ce que j'aime bien aussi, je vous l'avais dit, c'est une désorientation sensorielle à tous les niveaux, le salar. Voilà, ça c'est son grand avantage.
Ouais. Et alors, vous avez une chance folle parce que vous avez vécu le must du salar, vous, et je suis un peu jaloux.
Bah oui, cette fameuse couche d'eau, quand elle est sur ce salar, il y a 5 cm d'eau. Alors là, franchement, il y a un effet de miroir qui est absolument incroyable. Vous êtes complètement désorienté, vous perdez tous vos repères. Ça aussi, c'est une expérience magique. Vous ne savez plus où est le haut, le bas, la gauche, la droite, le dessus. Du dessous.
Tant
c'est,
que ça
c'est, oui, c'est vraiment incroyable. Et je n'ai ressenti cette émotion-là que là-bas.
Ouais. Et alors, comment on s'organise pour aller visiter ça ?
Alors, c'est un peu compliqué, le salar. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu demander à Jérôme tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut passer par une agence, évidemment. Vous n'allez pas vous balader comme ça tout seul sur le salar, parce que c'est immense, tout simplement. Alors, on peut le faire à la journée, mais ce que je conseille, c'est vraiment d'y passer au moins 4 jours pour s'imprégner de cette ambiance, Olivier, parce que c'est là que vous allez complètement déconnecter, prendre vraiment la mesure de ces couleurs. Et puis, prenez l'option un petit peu rustique, Nathalie. Pourquoi pas un peu de camping, justement, de bivouac tous les soirs. C'est un peu rude, il fait très froid. Mais alors là, le lever de soleil qui embrase le salar tous les matins, ça c'est une expérience absolument.
L'avantage, c'est que si on oubliait le sel pour les œufs durs, on n'y a qu'à ça.
Exactement.
Le sel du salar, il n'est pas connu en cuisine, ça c'est pas un truc.
Le sel bolivien, ça doit probablement exister, mais vous savez, le sel n'a pas réellement de goût. C'est un peu du snobisme que de vouloir utiliser sels improbables à des prix souvent astronomiques. Le sel, il sale, point final.
Ah ouais,
ouais,
ah mais là,
goût,
vous cassez
fait,
des mythes, là.
Bah, alors après, il y a des textures, hein, entre un cristal de sel, un sel fin, etc. Ouais. et les sels qui sont iodés ou qui ne le sont pas, etc. Mais on ne peut pas dire que vous allez changer la nature d'un plat en utilisant un sel de telle ou telle provenance, ça n'a pas assez de goût. Le poivre, oui, pas le sel.
Alors, on va quand même changer un peu d'univers, parce qu'on a beaucoup de sel, beaucoup de blancheur immaculée. Moi, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de couleur, quand même, aussi. On est en Bolivie, un petit peu plus au sud du Salar, ce qu'on appelle les lagunes du sud Lipez. Ça fait partie de ce circuit de 4 jours dont j'ai parlé. Et là, vous allez avoir des lagunes colorées. Quand je dis colorées, ce n'est pas une petite couleur bien fadasse, bien pastel. C'est du pétant, c'est du vert, du rose, de l'ocre. C'est puissant. Tout ça, c'est dû à des algues et des micro-éléments qui donnent cette couleur-là. Et puis, dessus, pour les gens qui aiment bien la photographie animalière, il y a des flamants roses que un bon petit 200 mm, vous les avez plein cadre. C'est absolument exceptionnel.
Et puis alors, moi, je peux conseiller un petit truc ?
Allez-y.
Le cimetière de train, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu. On se croirait sur un plateau de tournage. J'ai pensé à vous quand je l'ai visité, parce que c'est une atmosphère de ces carcasses de rouille, un petit peu taguées, il y a des dessins dessus, en plein milieu de cette atmosphère blanche. C'est à la fois un côté industriel sur un côté complètement minéral.
Et c'est des
dingue.
Trains qui ont été abandonnés là, qui ne servaient plus, sur une ligne elle-même abandonnée. Et voilà, ils y sont depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y en a des dizaines, des vieilles locaux, des locaux vapeurs complètement rouillés, majestueuses au milieu du désert. Ça vaut vraiment le coup d'œil.
Et c'est devenu une attraction touristique.
Alors, c'est un pays dans lequel on peut évidemment, la Bolivie, avoir beaucoup d'activités sportives, pour ceux qui veulent un peu d'adrénaline en plus.
Ah, il y a quelque chose qui s'appelle la route de la mort.
Faire le parapente peut-être à 4000 mètres.
Non, j'ai mieux que ça, Olivier, j'ai mieux que ça. J'ai la route de la mort en VTT.
Ah oui.
Cette route de la mort, elle porte bien son nom parce qu'elle était très meurtrière. C'est une route en corniche qui passe d'une altitude du Mont Blanc, 4800 mètres, à l'Amazonie, dont on a parlé tout à l'heure, à 800 mètres d'altitude, 35 km en 2 heures en VTT.
C'était la route de la mort pour les camions qui
l'empruntaient. Pour les camions et les bus, voilà. Aujourd'hui, il y a une autre route qui a été sécurisée pour faire passer tout ce transport, ces infrastructures, mais elle a été transformée, réhabilitée pour le tourisme et pour les descentes à VTT. Donc vous imaginez, vous passez de 4800 mètres à 800 mètres, vous passez d'une atmosphère très froide, pelée, aride, à la luxuriance tropicale en l'espace de 2 heures.
Donc vous l'avez fait dans le sens de la descente.
Ah bien sûr,
oui, parce que je pense parce que c'est pas 2 heures.
Là, ça serait 2 mois, je pense, effectivement. Donc vous imaginez les points de vue, l'atmosphère. Ouais. Tout ça se fait évidemment avec un guide qualifié qui vous prête un matériel et qui vous suit, un van qui vous suit. C'est très, très bien organisé sur place. Mais c'est une expérience énorme.
Et alors, on a beaucoup parlé de deux choses très minérales, très dures, mais du côté humain, on peut quand même faire des rencontres en Bolivie ?
Eh oui, surtout au marché de la Paz. J'adore le marché qui s'appelle le Mercado de las Brujas, le marché des sorcières. C'est un vrai spectacle. Il est célèbre pour ses remèdes traditionnels, ce marché-là. On y voit quoi ? On y voit des foetus de lama, figurez-vous.
Qui des foetus de lama ?
Des foetus qui pendouillent dans ces états.
Ça sert à quoi, les foetus de lama ?
Justement, vous savez quoi ? Il y avait un cadre, dynamique qui était à côté de moi. Il était en train d'acheter un foetus de lama. Je lui ai demandé pourquoi vous avez acheté ça. Il m'a dit, c'est sacré. Je vais construire ma maison dans mon quartier et dans les fondations, je vais mettre ce foetus de lama parce que ça me porte chance.
Nathalie ?
Oui, parce qu'on dit là-bas que les foetus de lama, c'est un peu le messager des demandes des humains en direction des dieux. Donc, c'est une sorte d'intercesseur pour les humains. Donc, vous voulez la
mais
bonne fortune.
Comment un foetus peut être un messager ?
C'est des sorciers, Philippe.
C'est chargé, il y a des vibrations, il y a des. Voilà. C'est de la superstition. Alors, il y a d'autres types aussi de choses qu'on peut voir à ce marché. Ce sont plein de figurines pour réaliser tous les rêves. Alors, par exemple, si vous voulez être camionneur, Olivier, vous allez acheter figurine.
Pas celle-là.
Vous allez acheter une figurine d'un petit camion que vous allez placer chez vous. Si vous voulez une épicerie, vous allez acheter une petite figurine d'une épicerie. C'est censé concrétiser tous vos rêves. Et si vous voulez trouver l'amour de votre vie, je ne sais pas qui ça concerne autour de cette table, vous allez acheter une petite figurine d'une femme ou d'un homme et c'est censé vous apporter le bonheur au niveau sentimental.
Merci beaucoup, merci pour ce très beau voyage en Bolivie.